comme ça que ça a commencé. Dis donc, t'as de la famille en province? Allons l'embrasser.
Si vous voyez pas la valeur de ce qui est là, vous êtes pas des clients, les mecs.
Oh, dans le fond, y'a pas de quoi pleurer.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et vous écoutez Les Clitoriciennes, l'émission féministe qui traite de l'actu d'Orléans. Le 4 avril dernier, le FRAC a reçu la journaliste et podcasteuse Victoire Toyon, fondatrice du maintenant célèbre podcast Les Couilles sur la Table, qui traite des masculinités et plus récemment, Le Cœur sur la Table, qui se penche sur les relations à l'ère post-MeToo. Avec Mathilde Leitley, chercheuse en histoire de l'art et podcasteuse, elles ont discuté du podcast dans la recherche artistique en lien avec les enjeux féministes lors d'une table ronde intitulée « Créer des podcasts en féministe, sonorité intime et politique ». Les clitoriciennes étaient présentes et ont eu la chance de capter cette rencontre mais aussi de pouvoir interviewer Victoire Toyon ce jour-ci. Aujourd'hui, nous vous proposons donc de découvrir cette rencontre à travers la captation de la table ronde. Et la semaine prochaine, vous pourrez découvrir l'interview de Victoire Toyon. Cette captation se termine avec le titre « Let's Generalize About Men », une chanson issue de la génialissime série « Crazy Ex-Girlfriend », un titre recommandé par Victoire Toyon elle-même. On vous laisse découvrir le contenu de la discussion entre Victoire Toyon et Mathilde Leichelet, riche et passionnant.
Nous allons parler ce soir du thème « Créer des podcasts en féministe, sonorité intime et politique ». Victoire Toyon, bonsoir. Vous venez de faire connaissance avec notre public. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Vous êtes journaliste et podcasteuse. Vous êtes connue notamment pour les podcasts « Les couilles sur la table » et « Le cœur sur la table » qui ont tous les deux fait l'objet d'une publication écrite sur Binge Audio. Je profite pour vous rappeler que la rencontre de ce soir sera suivie d'une séance de dédicaces des ouvrages du même nom. Pour animer cette soirée, nous avons invité Mathilde Leichelet. Bonsoir. Vous êtes chargée d'études et de recherches à l'Institut national d'histoire de l'art et podcasteuse. Vous avez réalisé notamment des podcasts sur Coven, un espace de sororité créé par la chorégraphe Nina Sentes, que certains d'entre vous connaissent peut-être puisqu'elle est venue faire une nocturne féministe l'année dernière, en novembre, en lien avec le Centre chorégraphique national d'Orléans. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mathilde et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci Prisca Ternot pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec vous tous et toutes ce soir et avec Victoire Toyon pour parler podcast et féminisme. Avant de rentrer dans le vif de la conversation qui va durer à peu près une heure et être ponctuée de brefs moments d'écoute de podcast pour que vous ayez bien dans les oreilles ce dont on va parler, je vais faire un petit panorama de tout ce que vous avez créé. C'est parti. Victoire Toyon, vous avez étudié à Sciences Po Paris et pendant ces études, vous êtes partie aux États-Unis où vous avez étudié la photographie, l'écriture de fiction et vous avez aussi beaucoup appréhendé les études de genre à ce moment-là. Puis vous avez intégré le master de l'école de journalisme de Sciences Po. En parallèle duquel vous travaillez en apprentissage à France Télévisions. Donc ça, c'est la télé, presse télé. Vous avez été par la suite éleveuse de chèvres, professeure d'histoire-géographie et serveuse. Vous avez ensuite été journaliste au quotidien à la montagne, donc presse écrite. Et puis, vous avez travaillé à nouveau pour la télé pour l'émission La Grande Librairie sur France 5. À partir de 2017, vous êtes tombée dans la grande marmite des podcasts, avec un premier podcast qu'on va écouter un peu plus tard qui s'appelle « Hélas, c'est le drame » pour Arte Radio. Et puis, à partir de septembre 2017, pour Binge Audio, « Les couilles sur la table », un podcast sur la virilité, les masculinités et les hommes, qui compte aujourd'hui 93 épisodes, et qui, pour le seul mois de février 2024, comptait 429 000 écoutes. Ensuite, vous avez animé La Bonne Graine pour Binge Audio, enfin, de manière concomitante, où vous mettiez en valeur les travaux des étudiants de l'Université Paris-Saclay. Vous avez écrit une fiction sonore qui s'appelle Mental FM pour Arte Radio en 2018. Il y a aussi eu un autre podcast pour Binge Audio qui s'appelle Du Sport. Et puis, en 2021, vous interrogez l'amour, notre rapport à l'amour dans une société hétéronormée et patriarcale pour Binge Audio avec Le Cœur sur la Table, qui est un podcast documentaire. Donc c'est intéressant parce que Les Couilles sur la Table, c'est un podcast de conversation avec des experts, expertes penseureuses. Le Cœur sur la Table, c'est plus de l'ordre de la broderie sonore. Vous parlez aussi de cœur, de conversation collective. Donc ça, on va en parler bien sûr. Et puis 2023, c'est tout frais. Il y a une sorte d'extension aux couilles sur la table qui s'appelle Nous faire justice, qui est un cycle de discussion enregistré en public sur la question des violences sexistes et sexuelles et sur la question de la réparation aussi face à ces violences. Et en 2023, une autre fiction au suivant pour la série When I Was 15, Dire et lire le désir. Tous ces podcasts ont donc abouti notamment à deux ouvrages, donc Les couilles sur la table qui est paru en 2019 et Le cœur sur la table qui est paru en 2021. Avant d'écouter le premier podcast, et là c'est le drame, je voulais vous demander de revenir un peu sur ce parcours qui a été brossé dans un très rapide panorama. Votre rapport au journalisme et votre passage au podcast, pourquoi aller vers le podcast natif, donc qui est hébergé sur Internet et qui n'est pas diffusé sur les ondes en direct? Pourquoi ce podcast natif plutôt que la presse écrite, plutôt que la télé ou plutôt que la radio que vous avez, format que vous avez presque tous expérimenté?
Merci beaucoup. J'étais pas très bonne à la télé et aussi je me sentais pas vraiment à ma place dans la presse écrite. Et le podcast, moi j'aimais énormément ça. Au début j'écoutais surtout des podcasts de Radio France. Quand notamment je gardais les chèvres là, quand je travaillais dans cette ferme autogérée en Andalousie, parce que j'adorais en fait faire des choses avec mes mains et écouter des choses en même temps, et parce que j'aimais beaucoup parler. Il se trouve que vu comment s'est fait la radio, même quand on est journaliste diplômé, tout ça, on peut pas avoir une émission comme ça tout de suite. J'en avais pas fait avant, et donc ça aurait pas eu de sens que j'aille proposer ça à la radio. Et le podcast, c'est quelque chose qui était pas cher aussi, c'est pas cher à produire. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de podcasts féministes. Parce que les femmes, les féministes ont moins d'argent, je sais pas. Donc du coup, ça, c'est un peu les nouveaux blogs, quoi. Et voilà. Et le podcast, c'était simple à faire, à produire. Donc c'est pour ça que j'ai été le proposer à des studios de podcasts.
Merci. Donc là, on va écouter « Et là, c'est le drame », un petit extrait de quelques minutes. Prisca, est-ce que tu peux le lancer, s'il te plaît ? De quelques secondes.
Mais d'où ça vient? Pourquoi les journalistes de télévision se sont-ils tous mis à parler comme ça?
Déterminé, l'ancien militaire a fédéré
4000 vaches, moutons, chevaux et autant de crottins
grâce à une caméra de surveillance dans son entrée.
Parmi les infidèles, près d'une sur deux consultent
des haricots verts.
Ils croient que c'est ce que leurs chefs attendent d'eux.
Mais les chefs attendent pas ça?
Et les chefs sont paradoxaux parce qu'ils se plaignent de l'uniformisation, c'est les premiers à s'en plaindre, et en même temps ils ne font pas ce qu'il faut pour que ça change.
Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la...
Ça c'est un teasing pour la suite. Donc là, dans cet extrait, on entend à la fois un amour pour le montage, pour vraiment cette broderie très fine et très drôle aussi, il faut le dire. On entend aussi une interrogation sur les questions de genre, puisque c'est la question justement que je voudrais vous poser, ce rapport à la voix, comment est-ce que vous l'avez analysé, et qu'est-ce que le passage au podcast change pour vous dans ce rapport à la voix?
Bon, alors je ne sais pas si vous voyez tous de quoi ça cause, ce truc de « Hélas, c'est le drame ». C'était un petit... En fait, c'est le premier projet que j'ai proposé quand je suis sortie de la grande librairie, quand j'étais pigiste, quand j'ai décidé d'être à mon compte, quoi. Ça partait d'une mauvaise expérience que j'avais faite à France Télévisions, où j'arrivais pas à faire la voix qu'il fallait pour les JT, pour le journal télévisé. Parce que j'allais tourner les reportages et j'arrivais pas à parler comme ça, enfin à parler comme au JT. Voilà. Donc c'est ce que je raconte dans ce petit documentaire pour Arte Radio, mais ça dure 12 minutes. Donc je vais voir mon ancien chef, c'est lui qu'on entend là, c'est un grand rédacteur en chef de France 2 qui était très très rigide sur les questions de voix, parce qu'en fait au journal télévisé on veut que tous les journalistes aient la même voix, et on réalise que c'est aussi une voix grave, une voix avec le même enfin vous entendez quoi, avec le même phrasé, tout est hyper grave, voilà, il neige, il y a une guerre, c'est pareil, c'est hyper grave. Bon. Et donc, moi, je n'y arrivais pas bien. Et en même temps, ça m'amusait, cette voix que je trouvais quand même un peu ridicule. C'est vrai que c'est chouette. Enfin, je souris là en repensant à ça, ça fait 7 ans maintenant. Parce que c'était très joyeux pour moi de faire ça, voilà, à la télé où on trouvait que bon, je ne savais pas bien quoi faire de moi, et d'arriver comme ça dans le podcast avec ce truc où il est question de trouver sa voix, voilà, que j'entendais toujours évidemment dans le double sens de la chose, où les gens à la télé me disaient tout le temps « mais il faut que tu trouves ta voix », ce qui voulait dire que tu arrives à parler comme tout le monde. Voilà. Moi je me disais bah, peut-être je vais pas trouver ma voix comme ça, non, ça va pas être voilà, donc voilà, c'était le début pour essayer de trouver ma voix. Et évidemment dans le podcast il y a du coup il y avait eu un style qui semblait plus libre au début, mais comme dans toutes les créations, tous les domaines, on finit tous par se copier les unes les autres. Et donc je sais par exemple le podcast, les podcasts les plus écoutés, il y a un ton très parisien, non, il y a un accent, ouais, je vois que ça hoche la tête, voilà, voilà, c'est un style oui, de un peu précieux comme ça. Il y a une copine à moi qui m'a fait faire qui est metteuse en scène, et dernièrement dans Le Cœur sur la Table j'ai juste fait des lectures d'un texte que j'adore qui s'appelle Les Luttes Fécondes, et donc cette copine metteuse en scène est venue dans le studio avec moi parce qu'elle est habituée à faire travailler des comédiennes, et je voulais qu'elle me fasse lire, et j'étais là avec mon casque à parler dans le micro et tout, elle était là mais c'est insupportable, en fait vous faites de l'auto-ASMR vous-même avec votre casque. Elle dit mais pourquoi vous nous parlez comme ça là, comme si on était dans votre oreiller comme ça tout près et tout, c'est infernal. Et je disais ah ouais t'as raison, et donc du coup je voilà, mais alors que pour nous ça nous paraît être le ton logique quoi. Bref, voilà, pas simple de trouver sa voix.
Non, pas simple, et c'est vrai qu'il y a une tendance à la suavité peut-être. Oui, qui se retrouve beaucoup. Et il y a en plus, comme après les pistes sont réécoutées, il y a un peu ce truc de on a créé sa voix et donc il faut garder cette voix-là et toujours repartir dans cette voix-là. Et tout à l'heure, j'ai évoqué votre séjour aux États-Unis. Qu'est-ce que ça a changé ce moment-là pour vous dans votre rapport au féminisme ? Et est-ce que c'est là qu'a germé l'idée des couilles sur la table, ou est-ce que ça remonte à avant, cet éveil au féminisme et aussi aux questions des masculinités ?
Bon, alors le féminisme, bon, c'était quelque chose, mais je crois comme pour beaucoup d'entre nous, non ? Il y a beaucoup de féministes, je pense, ici, dans la salle, voilà, nous nous reconnaissons. C'est mieux si je suis un peu debout, vous me voyez mieux, peut-être ? Ouais ? Ok. Bah, du coup, je fais ça, Mathilde, d'accord ? Je vais, ok. Alors, c'était très charnel pour moi, le rapport au féminisme. C'était quelque chose d'assez évident. C'était les discours de ma mère, qui n'étaient pas évidemment politisés, mais qui avait elle-même une façon de vivre. Enfin, elle a quitté mon père très tôt, parce qu'il lui tapait dessus. C'est vrai que moi je la voyais, elle, comment elle faisait pour élever ses deux enfants, donc mon frère et moi, je voyais les copines autour d'elle, je voyais bien comment les femmes avaient peur, comment les femmes sortaient d'histoires toxiques, comment voilà, et comment aussi ma mère gagnait sa vie et voyageait sans peur et était indépendante et était une femme qui avait des idées en fait assez arrêtées, hein, sur la violence des hommes, sur la liberté des femmes, sur ce à quoi on pouvait prétendre, ce à quoi on avait le droit, qu'on avait le droit d'être, par exemple, de jouir de nos corps, que la sexualité c'était quelque chose d'important. Bon, tout ça quoi. Voilà, donc ma mère, elle m'apprend ça. Après, j'ai une demi-sœur qui est avocate, qui a 15 ans de plus que moi, qui est très féministe aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, elle défend. Elle ne fait que assister des victimes, hein, de violence. Voilà, c'est un choix très fort qu'elle a fait. Elle m'a offert King Kong Theory de Virginie Despentes très tôt, quand c'est sorti en fait, quand j'avais 16 ans. Donc voilà, il y avait plein de choses dans mon climat quoi, qui faisaient que c'était assez évident pour moi d'être féministe. Je pourrais en parler des heures, parce que ça a été mon enfance, ce que je voyais dans les médias, ce que je lisais, les chansons que j'écoutais, tout ça. Voilà, et donc tout ça, bien sûr, préparer le terreau pour un engagement plus franc par la suite. Et le séjour aux États-Unis, oui, je pense que c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois des men's studies, donc des études faites sur les masculinités, masculinities, men's studies, mais j'ai pas vraiment étudié ça là-bas. C'est juste qu'il y avait des tracts qui circulaient sur le campus et tout, donc bon, il y avait ça, et donc là, c'était les années 2012, 2011-12, ouais, 2010, les États-Unis. Donc, il y avait en fait déjà le courant souterrain qui continue, parce que le féminisme, ça s'est jamais arrêté, en fait. C'est juste que des fois, on rentre sous terre et puis on ressort, quoi. Et donc, je sentais déjà ça. Voilà. Et à l'école de journalisme, j'avais voulu faire mon projet de fin d'année sur les hommes et la masculinité, et ils m'avaient dit, c'est vraiment pas intéressant. Donc, et je comprends pourquoi ils disent ça, mais voilà, mais je l'avais quand même noté dans ma liste d'idées à faire, et c'était mi-féministe, mi-obsessionnel. Hein. C'est-à-dire, vraiment, j'étais très très intéressée par les hommes, et de façon ouvertement sentimentale, sexuelle. Bon, bref, les hommes m'intéressaient beaucoup. Et donc, c'était un peu les deux, quoi. Voilà. Féministe et affectif.
Et je vais me mettre comme ça aussi. Allez. En plus, ouais. Allez. Donc, vous avez cité Virginie Despentes et King Kong Theory comme choc. C'est un choc. Et Virginie Despentes est l'invitée de 4 épisodes du podcast Les Couilles sur la table. Ça pose la question déjà du long format qui est permis par ce podcast. Pourquoi 4 épisodes? Comment ça vous est venu? Et qu'est-ce que ça fait d'interviewer Virginie Despentes aussi quand on a vu ce choc-là de King Kong Theory?
Merci. Donc oui, bah, le podcast est super parce que ça peut être très long. Bon, d'ailleurs, au début, les épisodes que je faisais duraient 30 minutes, puis maintenant ça s'étire en longueur. Alors je ne sais pas, il y a des gens qui aiment bien, d'autres qui aiment moins bien. C'est vrai que moi, des fois, quand je vois 1h15 affichée sur un podcast, je suis là, oulala, non, vraiment, j'ai pas envie, tu préfères regarder une série peut-être, tu vois. Ou... donc je ne sais pas quoi faire de cette histoire de longueur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne tire pas la ligne, quoi. On n'essaie pas de remplir une case. On coupe quand on trouve que c'est bien de couper. Donc les épisodes des Couilles sur la table, c'est très monté. Les épisodes de Virginie Despentes avec Virginie Despentes aussi. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, j'étais très curieuse en fait de ce qu'elle pensait sur un certain nombre de sujets, et j'espérais être digne du temps là qu'elle accordait. Voilà, j'avais relu tous ses livres et tout ça. Je les ai jamais réécoutés, je réécoute jamais aucun épisode à part au montage, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est des épisodes qui ont été écoutés, qui ont fait du bien. Voilà.
Et en ouverture du livre « Les couilles sur la table », il y a d'ailleurs une citation de King Kong Theory que je vais lire parce qu'elle est très efficace. Ah, et ben voilà, je me rapproche un peu de lui finalement, on ne sait pas ce qui se passe. « Le féminisme est une aventure collective pour les femmes, pour les hommes, pour les autres. Une révolution bien en marche, une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. » Je trouve ça pas mal de lire ça. Comme programme, c'est bien. Et comme programme, justement, Les Couilles sur la table, ça commence en septembre 2017. C'est aussi le moment où éclate l'affaire Weinstein et où essaime le mouvement MeToo, qui est toujours d'actualité. On a parlé de libération de la parole. Et c'est un terme à nuancer puisque les femmes ont toujours parlé, les victimes en général ont toujours parlé. On a aussi parlé de révolution de l'écoute. Et je voulais savoir ce que ces termes vous évoquent. Et vous, en tant que créatrice de podcast, comment est-ce que vous envisagez ça?
Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais écouté de podcast? Personne ne vous voit, vous pouvez juste faire un petit signe, mais ok, bon. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de très fort au fait de mettre des voix inconnues ou qui deviennent familières au fur et à mesure dans ses oreilles, quoi. C'est pas pareil que de regarder une vidéo, c'est pas pareil, c'est un peu similaire à la lecture, mais il y a ce truc très charnel, quoi, que les voix nous font naître des images, que les voix nous parlent au corps, quoi, directement. Et ça, c'est... Je suis encore émerveillée par ça, quoi. En fait, quand je pense que j'en ai assez écouté, alors j'en ai écouté des milliers d'heures de podcasts, ben voilà, il y a une nouvelle création et je me dis, ah, oh là là, cette voix, c'est formidable, tout ce que ça a fait. Bon, c'est pas que le podcast, c'est la radio, en fait, hein, c'est le son, c'est l'écriture par le montage, c'est l'écriture sonore, c'est comment les gens parlent différemment dans un micro, c'est tout ça. Et c'est vrai que je pense que le podcast est en train de nous apprendre à écouter, et à écouter différemment. Et je trouve ça évidemment magnifique que ça ait lieu. Et puis d'un point de vue féministe, je pense qu'il y a eu, enfin que le podcast a été vraiment un des médiums d'éducation populaire féministe, quoi. Et je suis, ça me fait frissonner de dire ça, parce que je n'imaginais pas, je suis si heureuse en fait, que ça a été possible, qu'il y avait cet outil gratuit, à portée de main, dans un téléphone, voilà, et qu'avec Charlotte Bien-Aimée, avec Lorraine Bastide, avec Quadmeuf, avec Clémence Alzard, enfin il y en a plein en fait, des créatrices, plein que j'oublie, mais et qui ont fait comme ça circuler des émotions, des histoires, des savoirs, des pratiques féministes, et je pense que collectivement, et on en a tout été... bouleversée et changée, quoi. Moi, je l'ai vu de mois en mois quand je faisais des rencontres en librairie. Je vois bien que les meufs, elles racontent plus la même chose en 2019 ou en 2021, quoi. C'est pas pareil. Ça... Donc, bien sûr, il y a tous les médias, il y a Instagram, il y a plein de documentaires et tout, mais le podcast, quoi. Il y a eu quelque chose, quand même, le fait de pouvoir écouter pendant des heures des chercheurs, des chercheuses nous dire des choses. Je pense à Charlotte Bien-Aimée, vraiment, c'est... Voilà, ces documentaires magnifiques... avec des scènes inoubliables. J'imagine que vous aussi, ça vous fait ça, qu'il y a des choses que vous avez entendues, vous savez où vous étiez, quoi, quand vous les avez écoutées, vous saviez ce que vous regardez. Moi, il y a des rues dans Paris dans lesquelles je passe, je sais que c'était là que je marchais quand j'ai entendu cette femme incroyable en prison dire que s'il fallait buter son gars à nouveau, elle le referait et tout ça. Bon, voilà, c'est, je pense à elle, à cette voix-là, mais à plein d'autres. Des choses qu'on comprend comme ça. Ben, voilà, pour les couilles sur la table, apparemment, des fois, ça fait ça, quoi. Ou la poudre, ces trucs de grandes conversations, là, où on entend quelqu'un parler, puis d'un coup, clac, on comprend quelque chose. Donc, je trouve ça génial, quoi, que le podcast puisse servir à ça, comme outil d'éducation populaire. De... Ouais, c'est ça, l'éducation populaire.
Merci. Et justement, concernant les penseuses que vous invitez dans les couilles sur la table, pourquoi déjà avoir eu envie de faire appel à LE ? Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous avez une question et vous cherchez qui pourrait y répondre ? Ou vous aimez le travail de quelqu'un et vous lui posez des questions ? Et après, vous-même, comment est-ce que vous vous positionnez ? Parce que la place du jeu de la première personne est très importante dans les podcasts féministes, notamment. Vous vous positionnez très clairement dans l'introduction du livre « Les couilles sur la table ». Et puis, dans le podcast, vous parlez aussi de vous. Vous parlez de vos expériences. C'est quelque chose de très situé, de très incarné, qui s'oppose à une supposée objectivité.
Bon, les couilles sur la table, c'est un format assez classique, hein, quand même, de conversation. Comme, en fait, j'aurais pu peut-être en avoir à la radio, mais bon, ça aurait créé aussi autre chose, parce que là, la radio, c'est, enfin, déjà, c'est intimidant. Les studios, nous, quand on enregistre, on dirait qu'on est un peu comme à la maison, puis on a tout notre temps. Enfin, c'est un autre dispositif de recueil de la parole. Sur la place du jeu, que dire ? Oui, que ça me paraît être une démarche d'honnêteté, en fait, que de... que de ne pas cacher un certain nombre de faits importants, de dire qui je suis, d'où je parle, quoi. C'est limite un acte de politesse, en fait, de faire ça. Et après, c'est vrai que moi, contrairement à d'autres, je dévoile assez peu de choses, quand même, hein, dans le cœur sur la table un peu plus, mais voilà, dans les couilles, pas tellement. Et il y en a d'autres qui font un travail merveilleux, hein, parce que là, s'il est question de créer des podcasts en féministes, il y a bien des féministes qui créent des podcasts et qui vont très très loin, hein, dans la mise en jeu, dans ce jeu-là. Je pense à Judith Duportail, tout récemment, on est en train de faire un documentaire qui est en train de sortir dans vos applis, là, qui s'appelle 20 milieux sous ma chair, dont le deuxième épisode vient de paraître aujourd'hui. Ah, c'est vrai, je vois quelqu'un qui a l'air de dire que c'est bien. Bon, bah, c'est très beau, c'est une autrice qui a retrouvé les cassettes qu'elle envoyait à sa meilleure amie quand elle avait 12 ans, c'est bouleversant. Je pense à Lorraine Oliel qui a fait ce chef-d'œuvre là qui s'appelle Mon Odyssée. Enfin, c'est vrai que le podcast, on a dit que c'est le média de l'intime, c'est le média du jeu, c'est quelqu'un qui vous raconte quelque chose à l'oreille comme une amie, quoi. Et oui, bah, j'essaye de faire ça, mais je suis pas trop à l'aise non plus avec ça, je sais pas, je cherche encore la bonne distance, ouais.
J'avais envie de citer aussi Les chemins de désir de Claire Richard sur son rapport, c'est une autofiction sur son rapport à l'imagerie pornographique, c'est vraiment magistral. Peut-être qu'on va écouter le premier épisode de la première saison des couilles sur la table, un petit extrait.
C'est l'heure des couilles sur la table. Ah, c'est bon, tout va bien. Un podcast produit par Binge Audio. Je me trouve en ce moment avec une spécialiste des masculinités. Bonjour Mélanie Gourarier.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'être la première invitée des couilles sur la table, un titre chic et classieux. Au fait, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette expression ?
Bah, moi, je trouve ça finalement pas si mal que, voilà, que des femmes puissent s'approprier cette expression. Et ça montre aussi que les attributs finalement de la masculinité ne concernent pas que les hommes, mais peuvent s'approprier aussi aux femmes.
Est-ce que vous voulez réagir à cette écoute assez émouvante, j'avoue, en le réécoutant, ça m'a fait quelque chose. Parce que c'est fou de se dire que maintenant il y a 93 épisodes de ce format-là, avec comme idée de départ la crise de la masculinité n'existe pas. Ça pose les bases pour la suite. Il y a aussi ce rapport entre les penseuses, celles qui sont considérées comme expertes, et puis les concernées. Comment est-ce que vous naviguez entre ces champs d'expertise quand vous imaginez les invités de vos différents podcasts ?
Non, les couilles, c'était vraiment... Parce qu'au début, j'ai retrouvé le mail, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le mail que j'ai envoyé il y a 7 ans à celui qui est maintenant mon patron, donc Joël Renez, où j'essaie de le convaincre de faire les couilles sur la table, voilà, et lui, il ne m'avait même pas répondu, il m'avait ghosté, quoi, bon, voilà. Après, j'avais sorti le truc, là, hélas, c'est le drame, et il m'avait rappelé pour dire, ouais, prenons un café, après, je lui avais repitché le truc. Il était là, ouais, je vois pas trop qui ça m'intéressait. Enfin, vraiment, j'étais là toutes les semaines à lui dire, si, ça va être vraiment intéressant. Bref, en tout cas, il y a eu plein de projets, enfin, il y a eu deux pistes explorées pour les couilles sur la table, mais assez vite, j'ai choisi la première, c'était de faire chercheur-chercheuse, parce que, bah, en fait, ces gens travaillent pendant 7 ans sur un sujet, c'est quand même normal de leur donner 40 minutes. Enfin, voilà, et on apprend vraiment des choses, donc, mais ça, c'est encore une fois, c'est une forme très classique, c'est ce que fait France Culture depuis toujours, c'est ce qui se fait moins aux États-Unis, bizarrement. Il y a beaucoup d'émissions, j'ai beaucoup écouté la radio aux États-Unis et c'est beaucoup d'émissions de storytelling, quoi, des gens qui racontent des histoires personnelles et tout, bon pourquoi pas. Enfin si, c'est génial aussi, mais il n'y a pas du tout cette habitude d'entendre des intellectuels parler pendant 2 heures, voilà, qu'il y a sur France Culture par exemple, ou en Italie, je crois, il y a ça aussi. Donc voilà, pour moi, les couilles sur la table, c'était assez clair que ça allait être ça, parce que je trouve ça tellement intéressant ce qu'ils avaient à raconter, que allons-y, quoi, comme Mélanie Gourarier, j'ai adoré son bouquin, bon bah voilà. Et puis qu'il y avait une quête, quoi, annoncée, bah, on va se demander qu'est-ce que c'est la masculinité, qu'est-ce que c'est d'être un homme, et puis le truc se poursuit. Comment je choisis les invités, j'ai pas répondu à cette question-là avant. En fait, je regarde ce qui... Il y a plein de sources différentes, mais en gros, je regarde ce qui se publie, je vais sur thèse.fr, encore mieux que Wikipédia au hasard, allez sur thèse.fr, quand vous êtes sur Internet, vous découvrez des sujets de thèse tout à fait improbables et géniaux. C'est comme ça que j'ai vu la thèse sur les séducteurs de touristes professionnels au Pérou. Voilà. Et puis après, il y a des questions que je me pose, on se demande comment y répondre. Là maintenant, depuis 2 ans, il y a Naomi Titi qui travaille avec moi, qui est une jeune journaliste formidable, qui est en train de reprendre les émissions. Voilà, je lui passe le micro comme ça, j'ai même pas fait d'annonce, je voudrais que ça se fasse tout comme ça, que les gens ils s'habituent, voilà, à écouter Naomi Titi, Talma Desta, Vincent Hédin, pour que moi j'arrête en fait de présenter les couilles sur la table, parce que ça n'a jamais été à propos de moi en fait, cette affaire, ni à propos des... C'est pour ça que j'ai jamais invité de stars non plus pour le principe, c'est vraiment à propos des idées qui sont passées, je veux que ça reste un podcast d'apprentissage féministe. Voilà, donc il y a d'autres gens qui vont présenter à ma place. Et c'était quoi votre question avant Ah oui, voilà. Et donc j'avais cette autre piste au tout début où je me disais, ah, je vais interviewer des hommes, et des hommes lambda, quoi, ils vont parler de... leur masculinité, leur père et tout. En fait, j'avais fait 2-3 tests, je m'étais dit, non, vraiment, pas du tout intéressant. Peut-être maintenant, ce serait autre chose. Parce que du coup, il y a quand même un discours qui s'est construit là-dessus, mais je ne sais pas si j'écouterais ça. Après, il y a eu d'autres podcasts qui font ça maintenant. Bon, pourquoi pas. Voilà, donc, l'histoire de la parole des... Enfin, c'était sûr que moi, je voulais que des chercheurs et des chercheuses, quoi, hein, pour les couilles. Et après, le cœur, bah, j'essaie que ce soit un peu plus équilibré, mais ça, mon modèle, c'est un podcast à soi, quoi, en gros, ouais.
Et c'est un super modèle. En fait, justement, je voulais vous poser cette question du passage de relais dans l'animation des couilles sur la table. Et je pense que ça évoque aussi la question des conditions de travail, justement, comment faire en féministe. Il y a quelques temps, vous avez parlé du burn-out que vous avez vécu. Comment est-ce que, quand on a un projet féministe, c'est possible dans une société capitaliste, patriarcale, de le faire en féministe, en envisageant un travail de care pour soi, pour les autres aussi. Est-ce que ça a été... Enfin, j'imagine que ça a été une réflexion pour vous à ce moment-là. Est-ce que vous voulez en parler un peu de ça ?
Alors, bon, déjà, c'est une expérience assez singulière, parce que pour parler de conditions matérielles, hein, de travail, moi, je suis l'une des rares, même peut-être même la seule, en réalité, podcasteuse féministe qui est salariée d'une entreprise de médias. Les autres, elles sont pigistes, voire elles ne gagnent pas du tout leur vie. C'est ça qui... La plupart, elles sont bénévoles, quoi. Donc, moi, je suis salariée parce que je suis rédactrice en chef à Binge Audio. Ça veut dire que je gère beaucoup de projets, je fais toutes les... Enfin, des tas d'activités de direction éditoriale et tout ça. Donc, en fait, vraiment, je n'ai pas du tout à me plaindre. Pas du tout. Et après, sur l'histoire de l'épuisement au travail, bon, bah, ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'être féministe ou quoi. Là, j'ai encore lu des statistiques récentes. En fait, il y a une santé mentale, des conditions de travail qui se dégradent partout en France. Il n'y a jamais eu autant de cas de burn-out et d'anxiété. Ça touche en particulier les femmes. Les femmes sont deux fois plus touchées, très probablement, dit l'article du Monde, là, que je viens de dire juste avant, parce que... Ben, elle se tape la double journée, qu'on a un monde du travail qui est toujours pensé au masculin, et même dans des secteurs très féminisés, en réalité, en fait, rien que le fait qu'on soit obligé de travailler 35 heures ou 37 heures par semaine, ben, en fait, c'est déjà un truc qui est pensé au masculin, parce que pendant ce temps-là, enfin, je veux dire, pendant qu'on est en train de faire du travail salarié ou productif, ben, y a personne qui fait du travail reproductif à notre place, pour la plupart des femmes, donc vous voyez, travail domestique, voilà, et ce qu'on appelle aussi travail reproductif, et donc les femmes pètent les plombs, en fait, souvent quand elles deviennent mères. Bon, moi, ça n'a pas été ça. Moi, je dirais que l'épuisement venait de... enfin, je suis pas... Disons, j'en ai pas fait des tonnes là-dessus parce que ça va, quoi. Enfin, franchement, c'est pas... Donc, enfin, voilà, je suis même gênée d'en parler. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui ont des conditions de travail vraiment épouvantables, qui sont mal payés, tout ça. Et ben moi, qu'est-ce que tu veux, j'étais épuisée parce que... Bah déjà, j'avais un trouble de l'attention qu'on n'avait pas diagnostiqué. Donc voilà, ça m'a épuisée. Après, bah du coup, je ne savais pas bien comment gérer. Au travail, il y avait des conditions, de, notamment relationnelles, qui n'étaient pas ouf. Voilà, et puis voilà. Bon.
Mais je pense que c'est très important d'en parler quand même, parce que justement, ce qui est produit, c'est des objets féministes empouvoirants, et le faire, le comment ça se passe dans les coulisses. Et d'ailleurs, c'est à la fin de chacun de vos livres, cette idée des coulisses. Il y a aussi cette idée de justement faire passer, enfin, diffuser la lumière, faire passer le micro, ce que vous faites là dans l'animation des couilles sur la table, dire que c'est toujours un travail en équipe. Tout ça, c'est du faire en féministe. Et la question du burn-out, c'est aussi, à mon sens, une question féministe, parce que le capitalisme et le patriarcat sont intrinsèquement liés, comme vous l'avez souligné.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ce truc d'équipe, mais ça me paraît tellement évident. En fait, que de toute façon, on n'arrive jamais à rien tout seul ou toute seule. Hein, ça n'existe pas, en fait, les humains qui se tiennent tout seuls. Il y a plein de mecs qui aiment croire qu'ils ont tout fait tout seuls. Bon, bah, ça n'est pas vrai. Hein, il faut des gens pour les nourrir, les écouter, prendre soin d'eux, les consoler, tout ça. Bon, et je trouve dans le travail, c'est pareil. Il y a mon nom qui est marqué sur la couverture, mais enfin, franchement... Enfin, c'est, oui, ça pose des questions aussi, qu'est-ce que c'est être autrice, tout ça. Bon, bah, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une équipe, donc c'est pour ça que je tiens toujours à les nommer à la fin de chaque épisode. Je nomme toute l'équipe qui est là, et je pense que personne n'a été maltraité dans le processus de fabrication des podcasts. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on crée des choses, et c'est ce que j'avais dit à l'époque, il y a eu une enquête Mediapart sur Binge Audio, sur comment ça s'était passé dans notre équipe à nous, dans le cœur sur la table, qui est que, bah, en fait, si tu passes un an... entre personnes sexisées, assez jeunes, à réfléchir à l'amour, les relations, la violence et le patriarcat. Bon, à la fois on était hyper fiers de ce qu'on créait, et en même temps ça nous a épuisés, voilà. Mais on essayait de, justement, on prenait grand soin les unes des autres sur ça. Mais bon, à un moment on était tout au bout de notre vie, quoi. Maintenant on a grandi, voilà. C'est ça qui est, je sais pas si c'est. Donc j'ai rien écrit, j'ai rien produit sur ces questions de comment on travaille sainement, qu'est-ce que ça veut dire avoir des limites et tout, mais j'ai beaucoup étudié ce truc-là, je me suis fait aider par plein de gens. Donc, et voilà, et maintenant par exemple avec Naomi Titi qui fait partie de mon équipe, ben, on travaille toutes les deux très bien, quoi. On sait très bien ce que c'est les limites de l'autre, on a plein de règles assez rigides sur comment on doit travailler, et puis ça se passe hyper bien. Et c'est aussi pour ça que je suis rentrée à Binge Audio, je suis revenue après mon arrêt de travail, parce que tout le monde avait changé, quoi, et tout le monde était déterminé à ce que ça se passe mieux. Et ça, pour moi, c'est aussi très important de montrer qu'on est capable de changer, on est capable de changer les modes d'organisation, de production. On a une réflexion sur ce qui épuise les gens, sur qu'est-ce que c'est bien produire, qu'est-ce que c'est être juste, qu'est-ce que c'est le bon partage de la richesse, toutes ces choses-là.
Merci. Et dans cette prise en compte des autres dans ce soin, il y a aussi pour le podcast les auditeurices. Et là, le cycle de discussion qui est associé aux couilles sur la table, qui s'appelle Nous faire justice, il se passe en public. Peut-être qu'on va écouter la bande-annonce et ensuite je vous poserai une question.
Salut, chers auditeurices. Ici Victoire Thuaillon. Dans Les couilles sur la table, on lance dès le 2 mars 2023 un nouveau cycle de discussion intitulé Nous faire justice. Les statistiques le démontrent encore et encore. Vous, nous, moi, lui là-bas, les vieux, les jeunes, partout sur la planète, tout le monde est concerné par les violences sexistes et sexuelles.
Ça m'a d'abord sidéré, moi, MeToo. Je pense que MeToo, ça a été d'abord, en tout cas pour moi et à mon avis pour beaucoup d'autres personnes, la prise de conscience en fait de toutes ces zones de silence qui existaient à l'intérieur de moi.
Qu'on en soit victime, témoin, auteur, complice ou proche, collectivement, nous commençons à ouvrir les yeux et les oreilles. Et nos besoins de justice et de réparation sont immenses.
Par moments, il faut juste être prête à les écouter. Et sur les violences sexistes et sexuelles, c'est d'ailleurs ce que toutes les personnes qui en ont témoigné depuis tant d'années le disent. En fait, elles disent juste « Est-ce que vous voudriez bien m'écouter ?»
Évidemment, la première réaction de la société quand une femme raconte avoir été victime de violence ou une personne, c'est « Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ?» C'est pour ça qu'on fait raconter en boucle. Et c'est pour ça qu'on va jamais au bout, en fait, de l'analyse de ce qui s'est réellement produit et de tout le système qu'il y a derrière.
Or, les réponses apportées par les institutions policières et judiciaires ne sont pas à la hauteur.
Ce n'est pas parce qu'on n'a pas déclaré quelqu'un coupable que celui qui se plaint n'a pas été victime.
Alors, que faire ? Face à ces violences, comment juger, comment réparer, comment prévenir ?
En matière de violences sexuelles et sexistes, tout le problème est de savoir où mettre cette notion de consentement. Et cet élément intentionnel, c'est très souvent le cœur du débat.
Vous avez des gens qui vous confient leur histoire, qui vous confient parfois leur traumatisme, qui vous confient tellement, tellement, que vous devez être à la hauteur de ça.
Et si une société démocratique a bien un objectif à se donner, c'est de tout faire pour que les infractions ne soient plus commises. Et c'est aussi de permettre à celui qui a commis une infraction de sortir de son mécanisme.
Je vous propose, une fois par mois, d'écouter un entretien enregistré en public avec celles et ceux qui ont longuement travaillé ces questions. Juges, journalistes, psy, philosophes et autres personnes expertes, pour comprendre, apprendre, grandir et guérir, parce qu'il est temps de trouver tous les moyens de nous faire justice.
Là aussi, le programme est fort. Mes questions par rapport à nous faire justice, c'est pourquoi avoir eu envie, besoin de créer ce cycle de discussion au sein des couilles sur la table, et pourquoi avoir eu envie de rendre les enregistrements publics.
C'est intéressant de voir ce que la parole devient dans les conditions dans lesquelles elle est énoncée. Donc, on n'a pas du tout la même parole si on parle à quelqu'un dans le noir, si on parle à quelqu'un dans un micro, si on parle à quelqu'un en public, si on parle... ça dépend des lieux, de la distance. Je trouve que les questions de justice, justement, c'est pas des questions à traiter à huis clos, c'est des questions à traiter avec le plus possible de monde, quoi. Donc moi, j'aime bien que ces émissions, elles soient enregistrées devant 200, 300 personnes, parce qu'en fait, c'est très très intéressant les questions qui sont posées ensuite par le public. Et puis ce cycle de discussion, ça permet de traiter les sujets qui me passionnent et qui me semblent là sont utiles et sont au cœur des préoccupations de beaucoup de gens. C'est-à-dire, on sait, on a compris l'ampleur des violences, qu'est-ce qu'on va faire quoi en face de ça ? Et d'où la volonté de chercher tout azimut. En fait, là, on va sortir une émission sur l'histoire. Voilà. Est-ce que l'histoire, c'est un moyen ? Faire de l'histoire, c'est un moyen de nous faire justice ? Bon, c'est une façon de créer des cycles de discussion qui sortent un peu de l'angle des masculinités. Voilà.
Et ça révèle aussi une prise en compte particulière des auditeurices, qu'on voit par exemple dans le livre Le cœur sur la table, où à plusieurs moments il y a des sections qui s'appellent cœur, C-H-O-E-U-R. Merci, ouais, je viens. Et là, c'est des témoignages reçus par, envoyées par des auditeurs et reçues, qui sont cousues les uns les autres pour ouvrir la discussion et justement ouvrir cette conversation collective. Et dans Le cœur sur la table, il y a vraiment donc un travail de montage qui est très particulier, mais on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, je voudrais m'arrêter sur Mental FM, qui est une fiction. En fait, on est dans la tête d'une femme pendant à peu près une journée. Ouais. Voilà. C'était pour une amie. Et en fait, on entend son flux de conscience, donc vraiment tout ce à quoi elle pense. Et bien sûr, on voit les biais sexistes qu'on a intériorisés, chacune, parce que ça pourrait être la tête de beaucoup d'entre nous, je pense. On va en écouter un extrait pour ensuite parler justement du podcast comme outil de création, d'écriture et d'expérimentation aussi.
8h12. Bonjour, on écoute le rêve du jour et la liste des tâches en cours.
J'ai perdu toutes mes dents.
Il faut les retrouver.
Dans la poubelle, sous le bureau du chef, mais...
Je suis toute nue dans la rue.
Il faut refaire la clé de la boîte aux lettres.
Il y a Maria et un crocodile à paillettes.
Prendre la robe à Monoprix ce soir.
Non,
ce soir soupe.
Répondre à Valérie,
louer la voiture,
envoyer le dossier.
Aujourd'hui.
Mon article.
Changer les draps, on est jeudi déjà.
Mental FM. Toutes tes pensées en stéréo.
Donc voilà, il y a ce flux de conscience permanent et puis il y a beaucoup de jugements aussi envers soi, envers son apparence et puis envers l'apparence des autres et notamment des autres femmes dans un jeu de comparaison qu'on expérimente dans cette société. Et c'est vraiment là un travail... pareil de broderie, parce qu'il y a plein de voix qui s'entremêlent, c'est extrêmement dynamique comme écriture. Qu'est-ce que le podcast permet comme écriture? Parce que vous avez étudié l'écriture de fiction aux États-Unis. Est-ce que cet intérêt pour l'écriture, ça vient de là, ou est-ce que c'est permis par le podcast, ou est-ce que c'est la rencontre des deux qui crée quelque chose d'autre?
J'ai pas tellement réfléchi, je dois dire, mais... Non mais c'est génial en fait ce qu'on peut faire avec le son, enfin tous les niveaux d'écriture justement que ça permet. Là je viens d'écouter un truc génial qui s'appelle Marie et les œufs en neige. C'est écrit, c'est très joliment écrit, et elle n'aurait pas écrit pareil pour le texte, c'est écrit pour le son. Donc elle joue avec les comédiens qui interprètent. Il y a un passage par exemple où elle interprète, où elle rejoue une scène avec un ex à elle, mais évidemment ça peut pas être son ex, donc elle dit bon bah c'est un comédien qui va faire mon ex, il s'appelle Solal, et on entend le comédien faire coucou, et donc il rejoue la scène et tout ça. C'est, je sais pas, c'est tellement joyeux en fait tout ce qu'on peut créer avec pas grand chose en plus dans le podcast comme niveau d'écriture et de montage et de faire entendre toutes ces voix là. Et moi, non mais j'ai jamais essayé par exemple d'écrire de la fiction en podcast, je suis très... je sais pas. Ouais, Mental FM c'était juste un coup comme ça quoi, pour voir. J'avais vraiment envie de faire entendre ça quoi. Je m'étais vraiment dit tiens, si on me branche un micro dans la tête, on va entendre quoi? Bon bah voilà, t'as la réponse, mais ouais, c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut créer avec le son en fiction. Là il y a un truc qui s'appelle La chute de Lapinville, vraiment c'est hilarant. Un truc qui s'appelle La préhistoire du futur, du même auteur, hyper drôle. Donc voilà, je me réjouis en imaginant qu'il y a encore des dizaines d'années, j'espère être encore vivante pendant des dizaines et des dizaines d'années pour écouter tous ces nouveaux trucs qui vont se créer en podcast.
Ouais, vous dites que c'est un coup comme ça, mais dans Au suivant, il y a aussi ce travail de voix, d'ambiance, qui est vraiment propre à l'écriture du podcast et qui est passionnant. Et je me demande aussi par rapport à l'écriture papier, il y a cet aspect technique du podcast, technique qui est quand même souvent connoté comme quelque chose, un savoir-faire masculin. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'empouvoirment ou en tout cas de la réappropriation d'aller vers ces savoir-faire un peu plus techniques? Je ne sais pas, comment est-ce que vous travaillez avec les équipes aussi sur ces données-là techniques?
Bon, à Binjozu, il y a des réalisateurices, voilà. Là, moi, je mets plus trop les mains dedans. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'était moi qui enregistrais, qui faisais le son et tout. Mais franchement, c'est pas dur. Enfin, vraiment, vous pouvez, tout le monde peut le faire. Je pense. Enfin, Reaper, par exemple, nous, on continue de monter avec un logiciel qui s'appelle Reaper. C'est gratuit, en fait. Donc, si vous avez un ordi, même du son de votre iPhone, vous pouvez faire du montage, quoi. C'est vrai que oui, j'aime bien savoir moi-même faire les trucs, quoi. J'aime bien savoir réparer mon vélo, j'aime bien savoir monter, bricoler des trucs. Après, je suis née en 89, j'ai eu des ordinateurs assez jeunes, donc voilà, j'y mets pas de passion particulière, mais j'aime bien savoir faire des trucs, quoi. J'aime pas trop être bloquée par la technique.
Mais ça me fait penser, dans les années 2000, il y avait une émission sur le MOOV qui s'appelait Les Filles du MOOV. Et la particularité de cette émission, c'était que c'était que des femmes partout, même à la technique. Et elles parlaient en plus de musique rock, donc c'était un sujet monopolisé par les hommes. Et c'était vraiment génial justement de voir que c'était possible d'avoir ces savoir-faire techniques-là. Et justement, en fait, je trouve que le podcast, quand on tombe dedans, il y a cette révélation qu'en fait on peut le faire, que c'est possible, comme c'est possible d'apprendre à réparer son vélo ou d'apprendre à construire des trucs de manière générale. Et c'est ce côté do it yourself et un potentiel féministe extraordinaire du podcast aussi. Alors, on va parler du passage du podcast au livre dans cette idée de rapport à l'écriture et on va écouter un extrait du Cœur sur la table.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous.
C'est bon ?
Tout le monde m'entend ?
Oui.
Super, merci. Merci d'être là. Merci pour tous ces cœurs qui battent à l'unisson autour de cette grande table depuis maintenant plusieurs mois. On le sait, on le sent. On est à l'aube d'un grand changement. Et ensemble, nous avons décidé de l'embrasser. Je crois qu'on peut le dire, ce que nous vivons ici, ensemble, c'est une révolution. Mais une révolution sans violence, bienveillante, résiliente et édifiante. Grâce à vous, demain on s'aimera mieux. Demain on s'aimera plus fort. Et peut-être, je l'espère, plus longtemps. Mais demain, c'est déjà aujourd'hui. Alors, haut les cœurs, et surtout, levons nos verres à l'amour qui, je le sais comme vous, triomphera toujours. Je vais maintenant donner la parole à notre amie Victoire Tuaillon.
Bonsoir. Je crois qu'il y a un malentendu. La révolution romantique n'est pas un dîner de gala.
Voilà, donc c'était un extrait de l'épilogue du Cœur sur la table. Est-ce que vous avez envie de réagir déjà à cette séquence qui est très drôle et aussi de nous dire pourquoi passer des couilles au cœur?
Non mais donc je rigole là et un peu gênée et tout parce qu'en fait c'est toujours, il y a plein de voix additionnelles qui sont faites dans les podcasts, c'est mes collègues en fait. Et là c'est encore, c'est un collègue qui est parti, Vincent, qui faisait la pub, il était commercial, mais il avait des très bons talents d'acteur, donc on le prenait pour faire tous les rôles, quoi. Je lui fais faire vraiment des trucs improbables, le pauvre, il s'est tapé tous les rôles de connard, en général c'est lui qui les faisait, quoi. Parce que ça me fait marrer de le réécouter. Et là les collègues qu'on entend lever les verres et tout, voilà, bon, c'est marrant. C'est un truc génial, ouais, de travailler à Binge pour ça. C'est vraiment, on rigole bien. Même quand on est en train de monter, on termine la réalisation là, de 20 000 lieux sous ma chair. Donc c'est quand même un documentaire, c'est quand même une enquête sur comment est-ce qu'on peut éradiquer l'inceste. C'est assez lourd comme sujet tout, mais on a essayé quand même de mettre des moments marrants dedans. Nous, on a pas mal rigolé enfin, là, dans les derniers moments, en réal, dans certaines des voix et tout. Bon, bref. Donc c'est cool, ça aussi, c'est... Enfin, vous voyez, un truc qui est génial avec le podcast, c'est que quand même, ça demande moins de moyens qu'un film, quoi. Là, si on voulait faire ça en film, laisse tomber. Après, ça a l'air super, les gens qui créent dans le cinéma, ils sont contents, mais je veux dire, t'as 100, 150 personnes à gérer, le moindre truc... voilà, là, on est quatre dans un studio et on rigole avec nos effets spéciaux à la noix, là, c'est marrant. Et après, alors, le cœur. Oui, bah, ça faisait longtemps que je disais que je voulais faire voilà, cette forme documentaire, que je sais que la question de l'amour, des relations amoureuses, affectives et tout, bah, c'est un sujet qui nous bouleverse, nous concerne beaucoup. Et les femmes en particulier, j'ai constaté, en parlent énormément. En tout cas, les jeunes femmes adolescentes et aussi plus âgées, il y a quand même tout un travail en fait, qui est fait, ce travail de care, qui consiste à prendre soin des relations, à trouver ce qui ne va pas dedans, à apporter des problèmes, justement à prévenir les problèmes avant qu'ils n'adviennent. Enfin bon, tout ce travail. Là, relationnel est très important, il a de la valeur, et du coup, ce que je voulais faire avec le cœur, c'était montrer que eh ben, c'est un travail féministe que de le faire, et voilà, et que encore une autre façon de montrer que l'intime est politique, quoi. Et je savais que ma voix, elle avait un effet particulier pour les gens qui m'avaient fait confiance, que c'est une voix que les auditeuristes aiment retrouver, donc j'allais prêter ma voix à ça, et dire, en gros, j'essayais de dire dedans, de mettre tout ce que moi j'ai cru comprendre ou apprendre sur les relations qui me paraît utile, quoi, à transmettre. Voilà, et pas moi en tant que Victoire Tuillon, mais comme journaliste, quoi, en me disant si on se demande qu'est-ce que les journalistes ont à nous dire, qu'est-ce que les féministes ont à nous dire sur l'amour et les relations, comment je peux synthétiser ça, mettre des témoignages et tout pour que, bah, oui, qu'il y ait une expérience qui soit transmise, quoi.
Ouais, c'est une autre forme un autre format que les couilles sur la table, puisque là on est du côté du documentaire, alors que les couilles sur la table c'est un podcast de conversation. Ouais. Mais tous les deux ont abouti à un livre. Comment est-ce que ça se passe ce moment-là de passage à l'écriture, non plus d'un format audio mais d'un format papier? Et dans le cas du cœur sur la table, comment on rend cette polyphonie, justement?
Les couilles sur la table, c'est quand même un... Enfin, c'est le... C'est, enfin, vous verrez, vous pouvez le feuilleter, je pense qu'il y en a à la librairie, où vous l'avez. C'est quand même une transcription hein, des épisodes augmentés. Ouais, le cœur sur la table, pardon, on a créé un objet qui accompagne, en fait, qui peut se lire indépendamment hein, avec le cœur. Voilà, j'ai rajouté plein de recommandations culturelles, tous les témoignages des auditeuristes, et on rend la polyphonie dans la maquette, vous voyez. Voilà, donc on a beaucoup travaillé la maquette pour ça, voilà, pour que ce soit pas un livre... juste du texte là transcrit. Donc ça, c'est Karine Lanini qui fait ce travail là puis on a rajouté des bonus et tout. Et les couilles sur la table, là, c'est tout à fait différent. Les couilles sur la table, c'est vraiment un essai que j'ai écrit du début à la fin en 6 semaines, ce qui je vous le déconseille de faire ça, car voilà, ça a préparé le terrain pour l'épuisement ensuite. C'est-à-dire que ça m'a un peu cramé les cerveaux, quoi. C'était quand même beaucoup, j'ai beaucoup travaillé vite pour faire ça, mais je crois je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, je me suis dit ouais, c'est bien, c'est sérieux et tout, parce que voilà, j'y suis partie avec mon coffre plein de documentation, et puis je me suis enfermée dans une maison, puis j'en suis pas sortie avant 6 semaines, quoi, en me nourrissant de tomates et de jambonneaux. Voilà, c'est que je mangeais avec les mains comme ça, et en fumant 3 paquets par jour, donc voilà, mais bon, des fois on dit que c'est écrit un peu trop petit. Ouais, il paraît. Ouais, c'est le poche qui est comme ça. Voilà, on voulait que ce soit pas un livre qui soit intimidant, en grand format ou en petit format. Il y a quand même des retranscriptions de certains des entretiens avec des chercheurs, des chercheuses, mais c'est véritablement un essai original qui n'a rien à voir avec la forme podcast, quoi. Le cœur, il suit quand même la structure du podcast, alors que les couilles, pas du tout. Voilà.
Et pourquoi alors choisir ce passage au livre? Est-ce que c'est pour pérenniser, pour accompagner, ou pour aussi créer un objet qu'on peut offrir et diffuser, puisque c'est la quatrième de couverture des couilles sur la table, un livre à offrir à vos frères, vos copines, votre mère, votre père, vos sœurs, vos neveux et nièces, oncles et tantes, vos copains pas encore féministes?
Oui, bah le livre, c'était parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas écouter des podcasts, qui préfèrent lire des livres, donc voilà. Qui me semblait qu'il n'y avait pas de livre équivalent qui existait. Ça, c'est très important pour moi, parce que maintenant, je dirige aussi une collection d'essais, que peut-être vous avez vu. C'est des collections de petits essais de 150 pages environ. Le premier s'appelle « Sortir de l'hétérosexualité », il a été fait par Juliette Drouard. Le deuxième s'appelle « Révolution amoureuse » de Coral Herrera Gomez, « Désiré à tout prix » de Talma Desta, bon, etc., etc. On va sortir le huitième, là. Et pour moi, c'est très, très important de ne pas gâcher des arbres, donc de faire des livres qui me semblent vont être utiles, vont jouer un rôle, sont accessibles, sont lisibles. Voilà, donc il y a beaucoup de travail qui est investi dans ces livres-là. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est que... Enfin, voilà, ça me semblait utile, donc allons-y. La deuxième, c'est que je gagne mieux ma vie avec des livres qu'avec des podcasts, ça c'est sûr, parce que le podcast, tout le monde les écoute gratuitement. Personne n'est prêt à payer pour des podcasts pour l'instant. Bon, les livres, les gens sont habitués à les acheter. Donc, c'est vrai que pour chaque livre vendu, je touche 1 euro. Donc, voilà. Et ça m'a changé la vie, parce que j'en ai vendu pas mal. Et ça m'a vraiment radicalement changé la vie. Et je suis contente que ce livre serve, circule, soit offert, tout ça, ça me fait hyper plaisir. Et voilà, que ça a l'air d'être précisément ça, d'être utile aux gens et d'être un livre de ressources. Donc dans les deux livres, il y a beaucoup de ressources, j'oriente vers beaucoup d'autres travaux, personnes et tout, parce qu'encore une fois, on pense rien toute seule. Enfin, je trouve.
Non, c'est sûr. Et dans chacun de ces deux livres, il y a une partie justement d'amplification à la fin avec des recommandations d'œuvres culturelles. Celle du cœur en particulier est très étoffée avec aussi, ce que je trouve très précieux, un mode d'emploi do it yourself pour des cercles de parole. Cette idée de faire circuler la parole entre soi et du coup de pouvoir appliquer très concrètement là où on est avec les gens avec qui on vit plus ou moins proche, c'est tout ce qui est mis en place et construit tout au long du podcast, ce mode d'emploi DIY, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et ça me renvoie à la question finale que vous posez aux invités des couilles sur la table, cette question de savoir quel est l'objet culturel, l'œuvre qu'elle voudrait recommander. Et donc je vous la pose ce soir, Victoire Thuillon. Est-ce qu'il y a une œuvre que vous voudriez recommander?
Là, du coup, ça, j'en ai parlé de Écoutez, je trouve là que ce que Caroline Potier a fait avec 20 milieux sous ma chair, c'est vraiment un travail important, qui est utile là aussi, puisqu'il s'agit de se poser très sérieusement la question de comment est-ce qu'on pourrait éradiquer l'inceste, qu'est-ce qu'on devrait tous et toutes savoir. Dans chaque épisode, un énorme effort qui a été fait pour que... toutes les personnes aussi dans leur métier qui sont en contact avec des victimes ou qui sont elles-mêmes victimes puissent réagir de façon adéquate. Donc c'est des épisodes qui vous apprennent, qui nous montrent en fait que c'est possible que déposer plainte ne soit pas une torture, c'est possible de bien former des policiers, des gendarmes, c'est possible de bien former les médecins, c'est possible de ne pas retraumatiser les victimes, c'est possible d'être bien défendu, d'être bien assisté par des avocats, c'est possible de faire voilà, la paire aidance, enfin, y a plein de choses qui existent, quoi. Puis à la fin, quand même, elle rencontre quelqu'un qui a été condamné pour des faits d'inceste. Le dialogue qu'elle a avec lui est quand même extraordinaire à écouter. C'est un travail vraiment très sensible, très courageux, très beau. Donc je suis extrêmement fière d'avoir dirigé ce travail-là. Voilà, donc moi je vous recommande d'écouter 20 milieux sous ma chair. Voilà.
Merci beaucoup. Merci pour cet échange.
Merci beaucoup. Merci d'être venu un soir. Voilà, je suis toujours étonnée. Merci. Merci à Mathilde d'avoir animé cette discussion. Merci à Mathilde Laichelet. Merci de m'avoir invitée.
Merci. Alors, merci à vous. Avant de conclure, j'ai trois informations importantes à vous donner. La première, c'est que notre prochaine Nocturne féministe aura lieu le 6 juin, avec l'artiste autrichienne Katharina Sibulka. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais signaler et saluer et remercier les clitoriciennes pour leur présence. Elles vont réaliser une interview de Victoire.